I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Neuf titres mondiaux d'un côté, sept de l'autre. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier dominent le rallye mondial depuis plus de 15 ans maintenant. Le premier a tout gagné avec Citroën. Le second a connu, lui, trois constructeurs, Volkswagen, Ford et Toyota. Alors lequel est le meilleur? Lequel a le meilleur coup de volant? Difficile de se prononcer, me direz-vous. Eh bien, on va quand même essayer. C'est surtout un prétexte pour échanger sur ces deux monstres sacrés des sports mécaniques français. Pour m'accompagner, un pilote qui connaît très très bien les deux hommes, Romain Dumas, pilote officiel Porsche évidemment, double vainqueur des 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance, qui fait du rallye, également, détenteur du record aussi à Pikes Peak, où est passé l'un de nos deux acteurs de ce qui est le plus fort aujourd'hui. Et puis en notre compagnie, Julien Pereira et Stéphane Vrignot, deux signatures de plus en plus célèbres du site Eurosport.fr. Merci à vous trois, messieurs, d'être avec nous. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, pour commencer, d'abord on va donner la parole à Romain. On est bien d'accord, Romain Dumas, que c'est quand même très très difficile d'arbitrer un duel entre, j'employais le mot de monstre sacré, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. On est bien de ce calibre-là pour ces deux-là.
Ouais, déjà bonjour à tous. À la fin du compte, je pense que déjà, si vous me citez ces deux acteurs majeurs, on pourrait dire du rallye, je connais les deux. Et bizarrement, pour moi en tout cas, j'ai souvent comparé, quand on parle de l'un et de l'autre, j'ai souvent dit ils sont exactement les mêmes. Alors ça va choquer beaucoup de monde, puisque forcément quand tu es à haut niveau dans la même catégorie, tu as de la rivalité. Et pourtant, en tout cas avec moi, leur approche elle est souvent identique quand ils parlent de leur sport, ou bien quand ils parlent, par exemple, parce que les deux ont fait du circuit, je pense qu'après vous allez me demander mon avis sur ça, mais les deux sont venus à moi, par exemple, pour me parler de circuit un jour, et l'approche, elle était exactement la même, qui est d'ailleurs complètement différente d'un pilote de circuit, etc. Et la manière de les questions posées, la manière d'anticiper ce qui peut se passer, la manière d'analyser l'équipe ou la catégorie pour laquelle ils vont courir, elle était exactement identique, ce qui est assez fou parce que de dehors, on pourrait dire que c'est deux caractères complètement différents. Et pourtant, et qui sont des rivaux.
Voilà. Exactement. On va en parler aussi avec Stéphane et Julien. Stéphane, tu as une petite préférence toi pour Sébastien Loeb, faut pas le cacher.
Oui, c'est l'évidence. Forcément, le palmarès parle pour lui. Mais je dirais qu'au-delà de son record de 79 victoires, de son nombre de scratchs en championnat du monde, de ses victoires, de ses records, je crois qu'il a gagné 9 fois le rallye d'Allemagne, 8 fois de suite, etc. C'est surtout l'empreinte dans le rallye français qu'il a laissé pour moi. Avant Loeb, le rallye appartenait quand même aux Finlandais. Et aujourd'hui, si on peut dire que la Formule 1 est britannique, la moto est espagnole, le rallye est français. Ça fait 15 ans que ça dure. Et Dieu merci, il a eu aussi un successeur qui s'appelle Sébastien Ogier. Ça fait 15 titres à eux deux. Ça, c'est juste formidable. Et c'est Loeb qui a impulsé tout ça. Et s'il n'y avait pas eu l'épopée Loeb, il n'y aurait peut-être pas eu la suite avec Ogier, où il n'aurait peut-être pas émergé de la même façon.
Ah bah c'est très intéressant comme point de vue. Et on va avoir à l'autre bout du spectre Julien Pereira, qui, lui, a à l'inverse un petit faible pour Sébastien Ogier, l'actuel champion du monde des rallyes.
Ouais, mais ce que vient de dire Stéphane, c'est très juste. Et il y a deux façons de le voir, finalement. Évidemment que Loeb a ouvert la voie, et peut-être que s'il n'y avait pas eu Loeb, il n'y aurait peut-être pas eu Ogier derrière. Ce qu'on peut se dire aussi par rapport à cette domination de Loeb Et le fait qu'il ait été premier, c'est que justement, c'est aussi un avantage parce que quand vous êtes premier, vous avez toujours un petit peu la faveur de l'opinion parce que ça existe partout dans tous les sports. À la boxe, c'est Ali, au foot, c'est Pelé. On peut faire à peu près tous les sports comme ça. Parce que quand vous êtes le premier, c'est forcément toujours un petit peu plus marquant, même si derrière vous, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi extraordinaire ou pas loin, ou peut-être même plus extraordinaire. On va en parler, on est là pour ça justement. Mais pour moi, c'est aussi un petit désavantage pour Ogier, c'est que s'il avait fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière sans qu'il y ait eu la domination de Loeb avant, on se rendrait peut-être un peu plus compte de l'exploit que c'est finalement de gagner 7 titres de champion du monde, peut-être un 8e cette saison, et de le faire avec 3 constructeurs différents notamment. Donc, il y a 2 points de vue. Celui de Stéphane est tout à fait recevable. Je pense que l'idée aussi de se dire que être le premier, ça donne un avantage, ça se tient aussi.
C'est valable aussi en sport mécanique. Hein. Quand quelqu'un roule vite, on lui dit « tu te prends pour Fangio ». On ne lui dit pas « tu te prends pour Vettel » et pourtant ou pour Schumacher, alors que Schumacher, statistiquement, a fait mieux que Fangio, c'est vrai. On va parler d'ailleurs de quelques chiffres. Je disais en introduction, 9 titres de champion du monde pour Sébastien Loeb, 9 titres consécutifs d'ailleurs pour l'Alsacien, 7 titres pour Sébastien Ogier, mais avec effectivement 3 constructeurs différents. Il y a eu 4 couronnes avec Volkswagen, 2 ensuite avec Ford et l'équipe M-Sport, et ensuite 1 avec Toyota la saison passée en 2020. 79 victoires en WRC pour Sébastien Loeb, 49 pour Ogier. Romain, on va venir après, ensuite, sur la façon dont essentiellement Sébastien Loeb, est allé voir ailleurs ce qui se passait. Est-ce que vous, qui faites régulièrement du rallye, vous voyez une différence de pilotage entre Loeb et Ogier? Et est-ce qu'on arrive à savoir exactement ce qu'a révolutionné Sébastien Loeb? Parce qu'il a apporté quelque chose de vraiment nouveau en rallye avec la richesse de ses notes. Est-ce que ça se traduit aussi en termes de pilotage entre les deux hommes?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Loeb est arrivé au rallye, nous, on était à l'époque la jeune génération en circuit. Et d'ailleurs, il y avait l'équipe de France FFSA. Et à l'époque, son président, Jacques Régis, était fan rallye, étant donné que c'est un mec des Cévennes, mais aussi était un fan de Sébastien Loeb. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il ne nous a pas vraiment aidé, ni moi, ni Bourdet, ni Montagny, mais on n'a pas eu la carrière de Loeb, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il a eu le nez ou la chance, mais en tout cas, son choix était bon. Et quand Loeb est arrivé, le style de pilotage en fait, du rallye, parce que moi, à la base, je suis, comme vous le savez tous, un fan de rallye avant d'être un mec du circuit, puisque mon père en sait, ça a été le premier qui s'est mis à comprendre qu'il ne fallait pas glisser ou moins glisser. On est tous d'accord avant, parce que bon, oui, on parle maintenant de Loeb ou de Ogier, mais des Français en rallye, il y a eu des stars, les Didier Auriol, les Bruno Sabi, bien avant, où c'était des voitures compliquées à amener. Alors, on ne parlera pas de Delecourt et forcément son engagement humain, mais à la fin de compte, en tout cas, Sébastien a été le premier à ne pas glisser, évidemment. Du coup, il a mis toute cette génération très douée, Carlos Sainz, Macré, tout le monde à la retraite. Ça, c'est déjà un vrai pas en avant. Et après, si on compare la génération de Loeb à Ogier, le style de pilotage est complètement identique, mais aussi le système de notes. Quand on parlait de notes, Loeb a été le premier, par exemple, par exemple, alors on ne parle même pas des années Ragnotti où le virage était bon, moyen ou pas bon, mais a été le premier à dire, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette génération, les Delecourt, Auriol, etc., les reconnaissances étaient illimitées, donc il connaissait, Denis Giraudet étant mon copilote, je suis même blessé pour le savoir, il connaissait par cœur. Donc, quand tu es au par cœur, finalement, tu fais du circuit. La génération Loeb a dû s'adapter, a essayé de ne pas, ou normalement ne connaît pas par cœur, donc est arrivé les vidéos, on est d'accord, mais là, le système de notes est devenu important. Et Loeb a été le premier, par exemple, sur un long virage, à noter un virage rapide, lui met 130, a marqué par exemple 133, le 3 étant la distance du virage, la longueur du virage. 133 va fermer 90, par exemple. Et si vous regardez aujourd'hui une caméra embarquée de Julien Ingrassé avec Ogier, en plus Julien est un très bon copain, la note va être exactement la même. Donc, grosso modo, ce que lui a amené au rallye, donc lui étant Loeb, eh bien, Ogier l'a continué sur ce truc-là. Donc, le rallye, finalement, il y a le style de pilotage et aussi forcément la note et la prise de note en deux passages qui est important.
Alors, J'ai eu, moi, l'immense honneur pour Eurosport de commenter pendant quelques belles années les championnats du monde des rallyes. Et j'ai aussi eu le privilège d'être en bord de piste et de voir passer Sébastien Loeb dans ses premières années chez Citroën, au moment où il y avait encore Peter Solberg, où il y avait Marcus Grönholm. Et c'est vrai qu'en voyant passer les Scandinaves, pour faire, même si ce n'est pas totalement exact, mais voilà, ça glissait, c'était très spectaculaire, c'était très beau. Et quand on voyait passer là, on disait « Ah, ben, c'est pas là qu'il va reprendre du temps ». Ben si, parce qu'en fait, c'était beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus propre, effectivement, comme vous le disiez, Romain, et ça passait beaucoup plus vite. Et il y a eu effectivement cette richesse des notes des notes de route, hein, donc, que donne le copilote, en l'occurrence Daniel Elena, à son pilote. Cette richesse, Stéphane Vrignot, elle est impressionnante chez Sébastien Loeb. Amusez-vous, pour ceux qui nous suivent, là, amusez-vous à aller chercher une caméra embarquée d'une spéciale avec Loeb et Elena. C'est impossible de suivre la richesse des informations. Il mentalise en fait la route selon les informations que lui donne Daniel Elena. C'est comme ça que ça fonctionne, Stéphane.
Oui, alors je pensais effectivement en écoutant Romain et en t'écoutant toi sur la glisse. Et il faut rappeler une chose, c'est que Sébastien Loeb est venu finalement au rallye assez tard, il n'avait pas cette culture, et j'en avais discuté avec lui un jour. Il me disait, moi, pour voir un petit peu comment fonctionnait le pilotage sur la Terre, je regardais les vidéos de McRae, c'était spectaculaire, il était en glissade dans tous les sens, j'ai essayé comme ça, et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas efficace. Donc, il s'est limité dans ses trajectoires, dans ses dérives, et c'est là qu'est venu le système de le style Loeb. Mais j'ajouterais que pour Loeb aussi, tu parlais de ses débuts, il y a des choses qui ont été très très marquantes. Rallye de Monte Carlo 2004, je crois que dans le brouillard, il remporte un scratch en collant 50 secondes, je crois, c'est à Marco Martin. Je fais ça de mémoire, hein, donc ça remonte quand même. Et on s'aperçoit de deux choses, c'est qu'il a une meilleure vue quand même que les autres pilotes, c'est-à-dire qu'il a une acuité visuelle supérieure. Et puis, il écoute les notes d'Elena, de Daniel Elena, comme une petite musique qui est une religion pour lui. Et on lui demande comment il a fait. Il dit, mais si Daniel me dit que c'est 200 mètres à fond et qu'il faut freiner à 50 mètres, eh bien, je fais mes 200 mètres à fond, je les estime et je freine là où il me dit de freiner. Je ne vois rien, je fonce quand même. Et c'est comme ça que ça marche. Puis, les techniciens à cette époque de Michelin disent une chose aussi. Les deux sont des becs de travail, franchement, et analysent, repèrent tout, prennent des notes vraiment détaillées. Et les techniciens de Michelin disent Sébastien Loeb, sur une spéciale de 20 km, c'est quelqu'un qui connaît la nature du revêtement, donc de l'asphalte, à 100 mètres près. C'est-à-dire qu'il connaît, les asphaltes changent sur les routes départementales, les routes employées. Et c'est où est-ce qu'il en est, il sait ce qu'il est possible de faire, et c'est là aussi où il est capable d'adapter quand le temps change.
Julien, je voulais voir avec toi, on a évoqué là les notes, donc forcément l'importance de la relation avec le copilote, et ça je pense que Romain pourra aussi nous en parler. Le point commun aussi entre ces deux-là, c'est que finalement ils ont fait toute leur carrière, alors on ne sait pas, ce n'est pas terminé pour Sébastien Ogier, mais ça m'étonnerait qu'ils se séparent de Julien Gracia, ils ont fait toute leur carrière avec le même copilote, y compris quand à un moment, Citroën a demandé à Sébastien Loeb de se séparer de Daniel Elena. Ce binôme aussi, il dit quelque chose de ces deux pilotes et de ces deux hommes.
Mais oui, parce que finalement, on a toujours mis, et quelque part c'est normal, en avant les deux pilotes, mais sans leur copilote. Enfin, il faut vraiment se rendre compte de la relation fusionnelle qu'il y a dans une voiture entre les deux. Et ce qui est fou, c'est justement qu'Ogier ait été capable d'atteindre avec Ingrassia le niveau de complémentarité, de connaissance et de confiance aussi, l'un envers l'autre, qu'a eu Loeb avec Elena. C'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'on a eu deux monstres qui ont réussi à atteindre quasiment à la perfection ce qu'il faut avoir comme relation avec son copilote pour pouvoir dominer 2, 5, voire quasiment 10 ans. Il faut vraiment se rendre compte de ça, de la chance qu'on a eu d'avoir deux Français finalement, pour être un petit peu chauvin, capable d'atteindre ce niveau-là.
Romain, on dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Là, derrière un grand pilote de rallye, il y a forcément deux grands copilotes. Alors, c'est deux personnages qui sont assez différents, hein, Daniel Elena et Julien Ingrassia. Et pourtant, leur rôle, il est je ne vais pas dire aussi important que le pilote, mais on n'est pas loin. C'est quoi l'importance pour vous entre un pilote et un copilote en rallye?
C'est primordial. Après, vous savez, ça me fait un petit peu rigoler. Bon, moi, je suis voisin avec Julien Ingrassia. On se connaît depuis très, très longtemps, hein, puisqu'il a été même vendeur de voitures à Alès. Donc, vous voyez, il a
et vous lui en avez acheté.
Mon père est vendeur de voitures. Julien est un énorme travailleur. Vous ne pouvez pas vous imaginer, alors même un peu trop des fois, à mon goût, mais c'est quelqu'un avant le rallye, comme un Denis Giraudet, qui n'a pas le même âge, mais d'ailleurs, ils s'entendent bien. Ils vont reprendre les notes des années d'avant. Ils vont regarder leur roadbook des années d'avant. Ils vont même des fois refaire le tracé pendant le rallye ou le soir des rocos pour être sûr de ne pas se tromper. Il n'y a rien sans rien. Et Elena, si vous voulez, avec son petit air de rigolo, avec son Ricard, tous les gens adorent ça sur Facebook, etc. Tout le monde s'imagine que le gars passe sa journée à picoler du Ricard. En fait, la petite anecdote, c'est qu'une année au Dakar, l'année où ils auraient pu vraiment gagner en Argentine, quand j'étais là, donc en 2017, si je ne dis pas de bêtises, on était à l'étape marathon le soir et on était tous au même hôtel. Ça paraît un peu fou au Dakar, mais il y avait des hôtels. Et puis, on arrive là le soir. Et puis, donc, ils se battent pour gagner avec Peter Hansel. Donc, Elena a toujours rigolé. La voiture, en plus, je me rappelle, fuyait à moitié un peu l'huile, etc. Il n'est pas trop bon mécano quand même. Et donc, on essaye de lui donner un coup de main. Moi, j'étais là, porteur d'eau. Je leur donne quelques pièces. Et puis après, 20 minutes, une heure après, on se dit, bon, mais le camion d'assistance Peugeot est arrivé. On part à l'hôtel. Et puis, je me retrouve dans le taxi avec Sébastien Loeb et puis Elena n'est pas là. Quoi. On dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, je vais venir un peu plus tard. Alors bon, nous, on va à l'hôtel et puis le soir, on se retrouve pour manger, toujours pas d'Elena. Et puis, OK, rendez-vous demain matin à 5h du matin ou 6h, je ne sais plus l'heure du départ. Et puis, le lendemain matin, 5 ou 6h du matin, toujours pas d'Elena. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fout ce type, quoi, tu vois? Donc, on reprend le taxi et tout, on repart. Mais en fait, Elena, avec son air de boire du Ricard, si vous voulez, le soir, il était resté... dans le camion d'assistance, a préparé son roadbook du lendemain matin pour être sûr que tout soit prêt. Il était resté sur place et il avait fait son travail. Il avait dormi dans le camion d'assistance, mais par contre, tout était prêt, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Entre l'air que l'on se donne et la réalité derrière, vous savez, les champions, il y a rarement de surprises. Après, on parlera sûrement des pilotes, mais dans les copilotes, il n'y a pas de surprise.
Non, exactement. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de… Alors, si on reste uniquement sur le rallye, le fait que Sébastien Loeb, c'est Citroën en rallye, alors que plus ou moins forcé par l'histoire, Sébastien Ogier, lui, a été 4 fois déjà champion du monde avec Volkswagen, puis ensuite il s'est retrouvé à devoir trouver refuge donc du côté de chez M Sport, et il a remporté 2 titres mondiaux avec la Ford de l'équipe de Malcolm Wilson, et ensuite il est passé chez Toyota pour aller chercher un nouveau titre. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs équipes différentes, alors je vais faire exprès puisque Stéphane Vrignot est pour Loeb, je vais lui poser la question à lui. Est-ce que c'est pas plus difficile finalement d'aller chercher des titres dans des voitures différentes avec des équipes différentes plutôt que d'en avoir 9, ce qui est colossal, hein, je fais mon métier de journaliste, j'essaye de donner un peu des éléments, plutôt que 9 avec les mêmes hommes?
Oui. Mais quand Loeb arrive, Citroën a remporté 4 rallyes du championnat du monde et Citroën avance un petit peu de façon expérimentale en ne sachant pas quelle est la pérennité de son engagement. Et c'est Loeb qui va poser des bases quand même. Dès même son premier rallye sur l'asphalte, il est très bon. Il est en lutte pour la victoire au 101 en 2001 avec Panizzi. Puis à l'attaque de la saison 2002, il mérite de remporter le rallye Monte Carlo et il est classé. Et après, l'histoire se construit normalement autour de Sainz et Macrae en 2003. Il prend la main tout de suite. Et je dirais que c'est quelque chose qui a été fusionnel aussi par rapport à une marque et par rapport aussi à un directeur d'équipe, ce qui était une chance extraordinaire, puisque c'est Guy Fréclin qui lui a fait confiance, qui était à l'écoute, alors avec des moyens extraordinaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il avait un hélicoptère, il se déplaçait sur les spéciales. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fabuleux que Guy Fréclin était la seule personne au monde à pouvoir donner des conseils de pilotage à Sébastien Loeb à l'arrivée d'une spéciale, comme ci, comme ça, dans tel virage. Bon, c'était fabuleux. Avec Guy Fréclin, ça a duré jusqu'en 2007. Il a continué quand même assez longtemps aussi avec l'Axara on disait, une voiture un petit peu dépassée en bout de développement, même si la C4 reprenait quand même les fondamentaux. Mais je dirais que ça a été une histoire continue où tout le monde était bien en place. Je pense à des gens aussi comme Jean-Claude Vaucard, qui était directeur technique, qui a lancé les bases de tout ça. Et après, Loeb était dans un cocon, tout était fait autour de lui. Le pilote numéro 2 aussi de l'équipe comptait, c'était Daniel Sordo, qui n'était pas là pour faire des histoires finalement, qui était un bon complément en soutien pour le championnat constructeur. Et tout ça pouvait aller très très loin. Et c'est quand ils ont recruté en fait Sébastien Ogier que la véritable question du statut, de la place de Loeb dans l'équipe s'est posée, et que c'est là que ça commençait à faire des étincelles. Mais c'est vrai qu'il a été, Loeb a été dans un cocon chez Citroën très longtemps.
Alors, Julien, est-ce que finalement, il n'y a pas une prime à aller chercher le titre comme ça en changeant d'équipe? Alors, volontairement ou pas, là n'est pas la question, mais quand même, trois voitures, trois équipes différentes, trois méthodes aussi qui sont assez différentes aussi de travailler entre M-Sport et Volkswagen. Ce n'est pas tout à fait la même façon de faire. Ça compte, il y a un bonus, non?
Ah bah, moi, c'est mon meilleur argument, clairement. Mais Romain pourra nous dire justement ce qu'implique la différence de changer de voiture, la remise en question qu'il faut avoir derrière et la capacité à s'adapter. Mais tu disais volontairement ou non, peu importe, c'est pas la question. Moi, je pense que c'est quand même une question parce qu'il faut avoir un esprit de compétiteur, il faut savoir rebondir derrière. Quand Ogier est mis dehors par Citroën, justement après des petites tensions avec Loeb, Ogier, il prend le risque d'aller se jeter avec le projet Volkswagen et de commencer tout à zéro finalement. Il faut avoir une certaine capacité mentale pour pouvoir accepter ça. M-Sport, c'est pareil. Volkswagen raccroche après le scandale du Dieselgate. Pendant des semaines et des semaines, on se demande ce que va faire Ogier. Il y a des rumeurs de retraite. Pendant longtemps, on a attendu au final. À 40 jours du premier rallye, il débarque chez M-Sport, qui est une structure privée qui n'a évidemment pas les mêmes moyens que Volkswagen. Il arrive à tout mettre en place et il gagne le titre cette année-là. Donc, il faut quand même se rendre compte, Ogier, c'est le mec que vous jetez à la porte et qui revient par la fenêtre. Et non seulement il revient par la fenêtre, mais il vous prend par le col, il vous sort de la maison et il s'installe chez vous. Je trouve ça quand même complètement dingue parce que, évidemment, Loeb, Stéphane a raison, certes, il a eu l'appui de Citroën et il a fait toute sa carrière chez Citroën, mais il a aussi construit quelque chose chez Citroën. On ne lui a pas tout donné comme ça dans la bouche. C'est lui qui a construit. Et Romain le disait en début d'émission aussi, si des mecs comme McRae, comme Sainz ont décliné avec Loeb, c'est aussi parce que c'est lui qui les a mis dehors. Loeb a construit ça. Ogier, il a réussi à construire plusieurs choses pour, en un temps record quasiment, en une saison, partir de zéro et gagner le titre. C'est quand même assez dingue.
C'est assez amusant de constater qu'ils ont des palmarès complémentaires, puisque Loeb n'a été champion du monde qu'avec Citroën et que Ogier a été champion du monde avec tout le monde, sauf Citroën, et pendant les deux saisons où il a piloté pour Citroën. C'est une ironie quand même aussi.
Et j'aimerais bien, Romain, qu'on évoque, parce qu'il y a un côté aventurier en interne, en tout cas à l'intérieur du rallye pour Sébastien Ogier, mais il y a aussi un côté... une appétence pour aller voir ailleurs, et ça je sais que ça te parle parce que toi tu fais beaucoup de disciplines différentes. Pour Sébastien Loeb, toi tu as gagné les 24 heures du Mans, mais tu as aussi fait le record de la montée de Spikes Peak. Tu as un feeling pour le rallye par une histoire familiale. Loeb, il a évidemment ses 9 titres de champion du monde des rallyes. Il est passé ensuite au circuit en championnat du monde des voitures de tourisme. Il fait quand même 2 podiums au classement général. Il va faire aussi du rallycross où là il s'est quand même bien amusé. Il fait le Dakar, il fait 2 podiums, et dont une fois effectivement en 2017 où il termine 2e et où c'est passé tout près. Lui aussi a eu le record à Pikes Peak. C'est toi d'ailleurs qui lui a volé le record de Pikes Peak, Romain. Ce goût pour aller chercher ailleurs d'autres sensations, ça doit te parler, toi, forcément.
Bon, déjà, quand je vous écoute, c'est assez rigolo parce que moi, là-dedans, juste pour réfléchir, et quand j'entends vos questions, à me dire, moi, pilote, qu'est-ce que je vois de tout ça? Et quand je vois les avis divergents de journalistes comme ça, ça me fait penser quand même que bien souvent, c'est la même en circuit, le journaliste ou les avis comme ça créent, c'est le mot, des rivalités des fois entre certains pilotes. Forcément, parce que chacun a son favori, on est d'accord, ou son avis, ou etc. Mais dès le moment où ça commence à être mis en avant, et c'est logique, à la limite, on n'est pas encore dans du gala, quoi. Il y a des journalistes qui vont parler de la vie privée de certains pilotes pour faire du gala. Et cela, nous, pilotes, on les connaît. D'ailleurs, moi, bien souvent, je leur parle presque pas parce que je sais que ça va créer une histoire pour rien, à la limite.
Et on n'en parlera pas, je te rassure.
Voilà, il faut quand même considérer que je pense que dans les deux là, les deux cas, mais il y en a d'autres, hein, dans tout sport automobile ou même d'autres sports, c'est tellement de l'élite que finalement, tu as toujours des points, des plus et des moins. Quand on parle, par exemple, Loeb est chez Citroën et a fait sa carrière chez Citroën, je dirais, mais pourquoi aller ailleurs? Quand tu es là-bas, tout le monde t'aime, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es sûr d'avoir tout ce que tu veux. Tu n'as aucune raison d'aller ailleurs et aller prendre une autre marque. À l'inverse, au même moment, ben, Ogier est là et puis finalement, le chouchou, il est clair qu'à ce moment-là, ben, c'est l'up. Donc, tu te fais avoir. Tu es obligé de partir parce que sinon, ben, tu vas toujours passer en seconde. C'est Schumacher, si vous voulez, Barrichello et Schumacher et Salo, et etc. Ou Hamilton et Bottas, quoi.
Alors, je te donne un contre-exemple. Valentino Rossi, qui est champion du monde, alors c'est de la moto, chez Honda, ouais. Et qui a envie de montrer que ce n'est pas la moto qui est championne, mais que c'est lui. Ça n'aurait pas pu arriver, ça, à Sébastien Loeb?
Ben, moi, en toute sincérité, je pense que déjà, en automobile, comparé à en moto ou à d'autres sports, l'humain, en tout cas, à cette époque-là, en moto, avait une plus grande part du résultat, comme sûrement le rallye de l'époque de Walter Orle ou dans les années 70, 75, 80, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la machine en rallye à ces années-là, si tu étais chez Citroën avec Guy Fréclin qui volait au-dessus de toi avec l'hélicoptère, tu avais plus de chances de gagner que si tu étais chez Malcolm Wilson qui était déjà là ou les constructeurs à l'époque où c'était quand même plus compliqué, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, pour finir cette question-là, que Loeb soit resté chez Citroën toute sa carrière, je trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, si les gens, les Français, parce que finalement, Citroën est quand même franco-français en termes de vente, si tout le monde s'est mis à acheter des Saxo VTS et même des Citroën à un moment donné, c'est grâce à lui. La sortie finale de Loeb chez Citroën, pour moi, elle est juste... catastrophique, inadmissible et quelle tristesse. Voilà, ça c'est la petite aparté. Mais
on a parlé dans le directoire de chez PSA, on avait parlé d'un accident industriel, hein, pour la rupture entre Loeb et
à l'inverse, un mec comme Ogier, ce qu'il arrive à déployer, moi ça fait 20 ans que je suis chez Porsche, j'aurais pu aller à un moment donné chez Peugeot, chez machin, etc. Je ne suis jamais allé. Pourquoi? Parce que je suis bien, je connais tout le monde m'adore, j'ai ma petite place. C'est la même chose, si vous voulez, que l'exemple Citroën. À l'inverse, avoir le courage d'aller chez les concurrents ou chez les autres. Bon, moi, Audi, ça m'a porté chance en 2010. C'était les rivaux, mais j'ai gagné le Mans. Mais parce qu'on a été jeté là-dedans, on n'avait pas d'autre solution. Mais d'avoir le courage d'aller ailleurs et à chaque fois de monter cette équipe comme Ogier arrive à le faire et à chaque fois que ça marche, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est une autre force quand même. Mais encore une fois, quand tu arrives dans cette équipe-là, tu arrives comme un héros. Un Ogier qui arrive n'importe où, c'est un héros. Donc, tout le monde est déjà dévoué à sa cause, quoi. Après, il faut vraiment, faut avoir le succès pour valider tout ce qu'on pense de toi, quoi. Enfin, bon, ça, c'est la petite aparté. Voilà.
Mais tout à fait, par rapport à ce que tu dis, Romain, je te rejoins parce que Loeb, il a changé l'image de Citroën, même si il était l'une des dernières personnes en France à rouler en Xara, alors que la C4, tout le monde avait envie d'acheter la C4. Il a couru avec un team semi-privé pour continuer sa carrière chez Citroën. C'est lui qui a convaincu le board de Citroën de s'engager finalement, de redévelopper la C4 dont le développement avait été figé pour revenir en championnat du monde en 2007. Et puis, cette histoire, elle aurait pu terminer très rapidement puisqu'on lui donne l'ordre au RAC en Grande-Bretagne en 2003 de se sacrifier pour le titre constructeur. Et là, personne ne comprend et on n'a pas envie d'en rester là. Voilà, et on a envie que cette histoire aille au bout et qu'elle dure. Et Loeb va donner une image dynamique à la marque. Hein. On parle au-delà du sport. Et effectivement, il va la rajeunir, cette image, et il va en faire même la marque, dans un sondage, la marque automobile préférée des Français. Et ça, c'était complètement nouveau. Et ça a été une révolution. Et je suis aussi d'accord, effectivement, ça a été un crève-cœur de voir Loeb dans une autre voiture. Moi, il m'avait dit un jour, de toute façon, tu ne verras jamais en rallye ailleurs que dans une Citroën. Bon, c'est arrivé, mais pour moi, ça n'a plus la même saveur. C'est pas pareil. Effectivement, ça a cassé quelque chose.
On parle d'image aussi avec un Sébastien Loeb qui reste effectivement le, le commandeur. Je crois que si on marche dans la rue et qu'on prononce le nom de Sébastien Loeb, on aura plus de chances d'avoir une réaction que du nom de Sébastien Ogier. Est-ce que c'est aussi le fait que, effectivement, c'était le premier, comme le disait Julien, les participations au Dakar, la deuxième place aux 24 heures du Mans avec Éric Hélary. D'ailleurs, j'ai parlé longtemps de Sébastien Loeb avec Éric Hélary et Franck Montagny. Hein, donc ça devait être en 2006. Est-ce que ça contribue finalement à donner une image un peu plus grand public à Sébastien Loeb par rapport à Sébastien Ogier qui est resté, lui, cantonné. Ce n'est pas réducteur du tout, mais en tout cas, il n'est pas encore allé voir ailleurs. Et je ne sais pas s'il ira, mais… Est-ce que ça peut contribuer, Romain, peut-être, à l'image un petit peu plus grand public de Sébastien Loeb par rapport à Sébastien Ogier?
En tout cas, on parle tous de Loeb qui a fait d'autres catégories, mais parce que c'est peut-être moins médiatique ou parce qu'il le médiatise moins, mais Ogier a fait plein de courses en circuit aussi ces dernières années, un petit peu au pied levé. Il a roulé à F1, je crois, il y a un an ou deux. Il a fait du DTM l'année dernière, une course. Il a fait de la Porsche Super Cup. Grosso modo, un peu ce qu'a fait Loeb à Parlement. Donc, et les deux, alors moi étant Porschiste et Super Cup, qui est la catégorie, je dirais, la plus dure pour se mettre en avant avec une Porsche, les deux ont fait ça. C'est assez rigolo. Alors, quand on parle qu'ils ne viennent pas par hasard, la première fois qu'Ogier a fait ça, il m'a passé un coup de téléphone pour savoir qu'est-ce que je pensais de l'équipe à laquelle il avait roulé, quels étaient les conseils, comment il fallait conduire la voiture, etc., etc. Et il a fait, donc si on parle d'Ogier, il a fait de la Super Cup, notamment sur le circuit de Monaco, qui n'était pas le plus simple. Et il s'est permis de faire dans les 10 premiers dès sa première course. Et ça, je peux vous assurer que c'est une performance du plus haut niveau. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la Super Cup, ça ne parle de rien. Mais néanmoins, c'est la catégorie Porsche mondiale où il y a tout le monde, les spécialistes. Et même si moi, aujourd'hui, vous me dites « monte là-dedans », je vais avoir du mal ou ça va être compliqué de faire dans les 10 premiers car c'est un truc de spécialiste, quoi. Et lui, donc, d'entrée de jeu, est arrivé à faire ça. Donc, autant vous dire qu'un mec, un Ogier en circuit, est loin d'être arrêté, tout comme on a vu Loeb au Mans, effectivement, où il fait deuxième, où il avait aussi très, très bien roulé. Alors, pour l'anecdote sur le côté Loeb, parce que moi, un circuit, si vous voulez, je regarde toujours les 5 premiers tours de chaque séance. C'est ce qui m'intéresse le plus, parce que je dis toujours, là, on voit les bons pilotes, on voit qui sait s'adapter au plus rapidement. Alors, ça paraît un peu con pour un mec de circuit qui tourne pendant 24 heures de parler de 5 heures. Mais j'adore ça parce que d'entrée, tu arrives à voir qui c'est qui se met vite en action ou pas. Et quand Loeb arrive au Mans, alors il y a la journée test, etc. Et puis arrive la semaine de la course. Et puis quand il est arrivé, il avait un casque minable. D'ailleurs, à l'époque, un très gros casque Sparco qui devait faire 3 fois le poids d'un casque qu'il faudrait. Il pleut. Et sur l'autre voiture, au même moment, puisque Pescarolo avait 2 voitures, il y avait Eric Comas, qui est une vraie référence du sport auto à l'époque. Et ils commencent tous les deux la séance sous la pluie. Donc je regarde, comme d'habitude, qui va le plus vite d'entrée de jeu entre les deux. Et au bout d'un quart d'heure de temps, alors que j'adore Eric Comas, Loeb, régulièrement sous la pluie, était plus vite qu'Eric. Alors on ne sait pas les pneus qu'ils ont, on ne peut pas tout comparer, l'essence, etc., etc. Mais d'entrée de jeu, il était dans le coup. Et pour moi, c'était bluffant, quoi. À l'inverse, alors je vais sûrement peut-être un peu vous décevoir, mais heureusement, parce que sinon, nous, pilotes de circuit de 24 heures, on n'aurait plus de travail. Il est allé rapidement, vite, mais après, pour aller passer le dernier cap du très vite, c'était forcément plus compliqué. Heureusement, moi, quand je fais du WRC, je fais le rallye d'Alsace, j'ai fini 10e et j'étais largué, quoi. Donc, voilà. Donc, je veux dire par là, c'est que les deux en circuit ont déjà fait des choses assez bluffantes. Et néanmoins, entre être bon et jusqu'au côté après très bon, forcément que c'est une autre discipline, heureusement. Mais les deux, je pense qu'Ogier n'est pas à sous-estimer un circuit, loin de là.
Moi, j'en ai parlé avec Éric Hélary, donc qui a fait deuxième avec Sébastien Loeb et Franck Montagny. Et il me disait, c'est assez énervant, en fait, parce que quand tu rencontres Sébastien Loeb, tu te rends compte qu'on n'est pas égaux, en fait, que Sébastien Loeb, tu lui dis un truc une fois et c'est rentré, c'est appliqué. Et qu'effectivement, même s'il ne faisait pas exactement les mêmes chronos que Éric Hélary et Franck Montagny, il n'a pas fait une erreur. Il me disait, le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas fait une seule erreur pendant toute la semaine des 24 heures du Mans. Il n'a pas fait un seul tête à queue. Il n'a pas fait une touchette avec un retardataire. C'est ça aussi qui fait deux monstres, parce qu'au final, voilà, on va pas vous dire, vous qui nous regardez, Loeb est meilleur que Ogier ou Ogier est meilleur que Loeb.
Parce que tu vas faire des déçus, là, Gilles.
Ça serait ridicule. Moi, franchement, Moi, je ne vous le dirai pas.
Non,
de toute façon, voilà. Ce qui est... Tu as employé, Julien, justement, un terme. Tu disais, on vit quand même une période incroyable où on a deux phénomènes du rallye qui se succèdent. Il se trouve qu'ils portent le drapeau français et ils montrent tous les deux que ben, on n'est pas égaux, qu'il y a des gens qui retiennent mieux que d'autres et que Ogier et Loeb font partie de cette caste qui arrive à s'imprégner plus vite de ce qu'il faut faire pour gagner.
Ouais, et pour revenir à ta question initiale sur l'envergure ou le fait qu'on reconnaisse plus facilement Loeb qu'Ogier, moi je pense que c'est lié à trois choses. Le fait que Loeb ait été le premier, ça on l'a dit en début d'émission. Je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Loeb a peut-être un petit peu plus de charisme, un petit peu plus de franc-parler qu'Ogier. Il est peut-être un petit peu moins lisse qu'Ogier. Et la troisième chose, je pense que c'est aussi l'exposition du rallye. Je pense que les plus belles heures du rallye, même si aujourd'hui le championnat est très beau et plutôt homogène en ce moment actuellement, bah, les plus belles heures, c'était quand même les années 2000 où tu avais des mecs comme McRae, comme Sainz, qui, eux, avaient été champions dans les années 90, avec Loeb, avec Grönholm aussi. Aujourd'hui, on a moins de stars, entre guillemets, au rallye. La seule star, finalement, c'est Ogier.
Est-ce que Stéphane, le fait qu'Ogier soit un petit peu moins connu, c'est aussi le fait qu'il n'ait pas été champion du monde avec un constructeur français? Forcément, ça joue un petit peu dans la balance.
Pour moi, c'est un fait fondamental. Citroën a très bien communiqué autour de Sébastien Loeb pendant toutes ces années, en amont des rallyes, pendant les rallyes, en français. Ogier, on l'entend en anglais aujourd'hui depuis quelques années et ça passe moins bien, c'est moins pratique, c'est moins direct, ce qui fait qu'il a... Il est moins attractif sur le plan médiatique. Loeb, on l'a tout le temps vu dans les publicités, très, très vite. Ogier, on le cherche aussi un petit peu de ce côté-là. Et Loeb en a fait une force. C'est-à-dire que quand il voulait s'engager dans un projet, par exemple faire Le Mans, il avait un sponsor derrière lui qui scénarise ses tours, de validation de sa participation. Il vient de gagner le rallye de Turquie, je crois que il était
jour
midi. Il se déplace en jet. Je crois même qu'on lui avait proposé un avion de chasse pour venir plus vite possible au Mans. Il a dit non, ça va être too much. Et puis, il y avait des choses organisées autour de son sponsor. On le voit, c'est scénarisé. Il arrive, mais en star, à tel point que les pilotes étaient un petit peu gênés, jaloux à l'époque parce que c'était un peu too much. Voilà, mais c'était la star. Voilà. Et puis, quand il doit essayer une Formule 1, c'est pareil, c'est que ça va plus loin que ça. C'est qu'il ne fait pas des tours en catimini à Spielberg comme Sébastien Ogier en disant merci, c'était sympa. On lui organise un test au Castellet. Il va prendre une Renault alors qu'il est pilote Citroën. Donc, normalement, ça ne colle pas bien. Ils ont un sponsor commun Total qui fait le lien. Et ça, c'était intelligent parce que tout le monde en avait envie. Il fait ses tours au Castellet. Et puis, après, on revoit dans une Red Bull, dans une séance d'essai officielle. Ils sont 17 à Montmélo, je crois que c'était fin novembre 2008. Ils sont 17 en piste, il fait le 8e temps. Alors bon, il y a toujours moyen de booster une performance, c'est clair, mais on en vient à se poser la question, est-ce qu'il ne participera pas à un Grand Prix? Et puis, chemin faisant, l'hypothèse arrive de sa participation au dernier Grand Prix en 2009 à Abu Dhabi. Et puis, c'est finalement Jean-Todd qui dit, non, là, c'est un petit peu trop quand même. On n'est pas sûr de ce qu'on veut faire ou de ce qu'il sera capable de faire. Honnêtement, il aurait été à deux secondes ou une seconde de son coéquipier, donc ça n'aurait pas servi à grand-chose. Ça aurait été pour lui, pour le plaisir, mais quand il fait quelque chose, il le fait à fond et ça se sait tout de suite beaucoup plus qu'Ogier. C'est là la grande différence.
Ouais, peut-être que si Sébastien Ogier et Romain avaient été, si le mariage, l'alliance avec Citroën, quand Ogier est revenu chez Citroën, s'il avait été champion du monde, est-ce qu'on aurait pu avoir diminué un petit peu ce décalage de reconnaissance du public français?
Oui, moi je pense, en toute sincérité. Et je pense que d'ailleurs, si lui... Au fond de lui, s'il a pris le risque de faire ça, parce que c'était un risque, quand tu viens sur le terrain conquis, on ne va pas, je ne pense pas qu'il faut, encore une fois, dire de ton ennemi, parce que ce n'est pas le c'est pas
non,
le
monde.
Et moi, si tu me dis, ouais, tu vas rouler dans tel baquet, machin, rouler avant, bon, ben, tu vas, et puis voilà. Mais néanmoins, les ingénieurs, les mécanos étaient là les années d'avant. Donc, si, je pense que s'il a pris des fois le risque de se dire ça, il savait très bien qu'il allait dans un terrain déjà pas facile parce que la voiture était quand même un os. Et de plus, le terrain était en plus légèrement miné avec les gens qui pouvaient y avoir. Mais peut-être qu'au fond de lui, il s'est dit,
j'y vais quand même.
C'est sûr que tu es tu es français quelque part et que tu aimerais que ça marche, tu aimerais arriver là-bas, rien ne vaut de gagner Le Mans avec une équipe française si tu es un Français plutôt que les Allemands.
Mais... Romain, ce que vous nous dites là, c'est un peu comme si Peugeot vous proposait de les rejoindre maintenant pour éventuellement rouler aux 24 heures du Mans. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, après, c'est toujours pareil. Je pense que quand tu es un pilote à la fin, forcément que l'histoire Citroën, ils voulaient tous rouler pour un constructeur français pour avoir une bonne presse et que tous les Français les adorent. Mais aussi, ce que tu veux, c'est gagner, quoi. Donc, au bout d'un moment, son intérêt personnel passe aussi avant tout avec les contrats qui vont avec, les gens qui t'entourent, ton envie de bien faire avec les gens. C'est super important quand t'es un sportif à ce niveau-là, de se sentir vraiment bien entouré chez toi, avoir envie de bien faire. On le voit d'ailleurs après, l'année dernière, chez Hyundai, ben finalement, Seb, il s'est amusé sûrement, mais ce n'était plus la même chose, quoi. Il n'y avait plus la même niaque, la même envie, les mêmes déclarations.
Un petit mot, Stéphane, là-dessus, oui, vous vouliez réagir.
Pour le lien, en fait, le pilote français, pilote historique de Citroën, il faut aussi être servi par les circonstances. Parfois, il est champion du monde en 2004 en France. En 2005, il est le seul à signer tous les scratchs dans un rallye, les 12 scratchs du rallye de France, plus le shakedown. Et puis, on déplace pour lui le rallye de France du Tour de Corse au rallye d'Alsace et il est champion du monde à la maison en 2010, en 2012. Alors, quand tu t'appelles Sébastien Ogier et que tu fais du rallye en S2000 et que tu repars à zéro, derrière, c'est difficile. C'est certain, tu pars avec une longueur de retard. Globalement, l'OB a toujours eu une longueur d'avance médiatiquement là-dessus.
Voilà, mais effectivement, je crois qu'on peut dire qu'on est quand même chanceux. Romain, tu es d'accord avec nous? On est chanceux d'avoir eu deux monstres comme ça, incroyables. Et je crois que tu veux dire autre chose.
Vous qui êtes des journalistes rallystiques affûtés, on pourrait dire ça comme ça, j'espère que vous savez un truc, et Denis Giraudet devrait être à ma place parce que lui, il connaît bien mieux le rallye et les stats, et il adore ça. Ogier, dès son premier rallye en championnat du monde, a signé un temps scratch en ayant un numéro très loin, certes, dès, je crois, la première ou la deuxième spéciale.
Première.
En Grande-Bretagne, non ?
Première spéciale, c'est bien ça. Et Giraudet le répète à chaque fois parce qu'il avait le scratch avec, je crois, Novikov ou je ne sais pas qui. Et puis, le numéro sûrement 25 ou 30, il a pris le scratch. Et à l'inverse, ou tout autant, Loeb n'a pas mis longtemps aussi à faire ses premiers scratchs en championnat du monde. Je dis ça parce que à chaque fois qu'on parle de jeunes espoirs, Giraudet me dit toujours, si les mecs ne sont pas capables de faire un scratch dès leur premier rallye, ça veut dire qu'ils ne sont pas au niveau, et s'ils doivent apprendre pendant des années, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Et donc voilà, donc c'est juste, je répète juste ce que j'ai entendu, sûrement pendant des liaisons, très souvent, je vous rassure, moi, je n'ai pas fait mon scratch dans mon premier rallye, qui était sûrement même régional, donc ça n'a rien à voir. Mais...
en fait, le temps dans le premier scratch, référence de Denis Giraudet, c'est un peu vos premières minutes sur une séance aux 24 heures du Mans, quoi. C'est le même principe.
Peut-être, ouais, ça doit être ça, mais en tout cas, ça a le mérite d'être dit que c'est des gens qui savent s'adapter très vite et se sont mis en valeur, parce qu'on parle finalement de se mettre en valeur très rapidement. Après, passer derrière quelqu'un, vous savez, prenons l'exemple de Christensen, hein, si on parle Le Mans, ok, il a gagné 9 fois Le Mans, c'est forcément quelqu'un de très très fort, etc., il n'y a rien à dire. Maintenant, 9 fois Le Mans, à un moment donné, quand tu as une Audi avec 200 millions de budget, contre Henri Pescarolo, ces années-là, qui a 3 millions, quand Pescarolo ne fait aucune simulation de 24 heures dans l'année, quand tu es chez Audi, tu en fais 4, 5, 6 dans l'année, forcément que tu as plus de chances de gagner que si tu es dans l'autre camp, quoi. Comparer des titres, des résultats, etc., où on pourrait dire, oui, il y en a qui ont gagné qu'une fois, deux fois, trois fois Le Mans dans les années 70 et vice-versa, à mon sens... c'est bien pour les statistiques, mais c'est tellement difficile de comparer les époques, les voitures et les résultats et l'adversité aussi, que c'est vraiment délicat, quoi.
Non, je crois que le plus important, et c'est ce qu'on a fait ensemble, hein, c'est de dire que c'est deux phénomènes absolument incroyables. Juste une toute petite dernière question. Est-ce que, Romain, vous avez une idée éventuellement de ce que… Parce que Sébastien Ogier a annoncé que c'était sa dernière saison. Qu'est-ce qu'il pourrait faire après? Est-ce qu'il va vraiment arrêter ou est-ce qu'il va éventuellement aller faire un peu de circuit? Est-ce que vous auriez une information à nous donner?
Vous savez, ça, moi, je pense que de dire « je vais m'arrêter là » ou « je vais m'arrêter là » ou « je vais m'arrêter bientôt », j'y crois guère. Pourquoi? Parce que ben on l'a pu voir aussi même avec l'UB, quoi. Il s'est arrêté à leur force. À un moment donné, quand même, le rallye, je pense qu'il l'a arrêté de lui-même. Puis après, ça y a manqué. Après, le circuit, ce n'est pas son truc. Et puis après, l'histoire Citroën qu'on a déjà évoquée, pitoyable. Et puis finalement, le mec, il veut toujours courir, quoi. Donc, c'est bien joli peut-être de rester chez soi et de dire « je vais arrêter quand tu es champion du monde ». Mais peut-être après, tu t'embêtes aussi chez toi, quoi. Prenons l'exemple de Prost, il s'était arrêté en Formule 1, il est revenu. Pour revenir au circuit, quand on 24 heures du Mans, même cette année ou l'année dernière, je parle avec Christensen et qui me dit qu'il aimerait être à ma place. Ben, c'est super triste, quoi. Moi, je trouve ça, voilà, quoi. Donc, oui, tu peux partir sous les feux de la rampe, comme par exemple en 2016, j'aurais pu dire, OK, j'ai 40 ans, champion du monde avec Porsche, ça fait 15 ans, je m'arrête, etc. Mais à la fin du compte, après, tu es chez toi et qu'est-ce que tu fais, quoi. Je pense que les deux, ils sont vraiment passionnés. Quand tu es un mec qui vient du rallye, normalement, tu es un vrai passionné.
Ouais.
Le circuit est déjà un peu moins ce cas-là, mais parce que voilà, on a un peu plus de, je veux dire, il y a que Nico Rosberg qui peut s'arrêter et puis d'un coup qui fait la télé sur YouTube où il a récemment essayé la VDR, mais si jeune, quoi. Mais je pense qu'un vrai rallyman, on les voit toujours d'ailleurs, un vrai rallyman, ben tu le vois toujours. On prend un Bruno Sabi, un Didier Auriol, un Walter Rohr, le machin, tu les vois toujours traîner quelque part à essayer de faire un rallye avec une voiture, etc.
Improbable.
Pilote de circuit, en prenant Nidji Irvine, ou prenant des mecs pourtant qui ont gagné des courses, ou Marc Weber, etc. Il te dit, ah non, moi je ne veux plus conduire, ça ne m'intéresse pas. Donc la passion n'est pas la même quand même.
Bon, bah on verra alors si Ogier prend véritablement sa retraite ou s'il se reconvertit comme vous, ou continue d'ailleurs, comme vous semblez le soupçonner. Merci beaucoup.
Je lui souhaite de continuer.
Ouais. Merci beaucoup Julien, merci Stéphane, merci à vous, merci Romain, à vous d'avoir été avec nous. C'était vraiment très très sympa d'échanger sur ces deux phénomènes incroyables que sont Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se quitte sur ces belles paroles et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro. On verra de qui on parlera pour savoir qui est le plus fort. Merci à vous trois. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.